Alors, pour vous expliquer un peu comment ça va marcher, je vais vous faire un commentaire sur 2 ans de ça. Donc en fait, pour suivre ce que je vais vous raconter, il faut que vous achetiez ce truc-là. Désolé, hein, ça coûte 22 euros. Ça va aller ou pas ? C'est l'abrégé du catéchisme de l'Église catholique. Donc, si vous voulez acheter le gros, vous pouvez aussi. Hein. Et donc ça a été publié par Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, en 92. C'était la première version. Et puis, c'est une version ad experimentum. Et puis, en 90, donc il a donné ça à tous les évêques du monde entier. Il a demandé aux évêques de faire un retour, ce qui est né, ce qui n'allait pas, etc. Et en 98, il a publié l'édition définitive. Ça, l'Église catholique en publie tous les 400-500 ans, à peu près. Ça va ? Donc ne vous dites pas, je ne vais pas acheter celui-là, je vais attendre d'acheter la version prochaine. Parce que là, vous aurez déjà... Enfin bref, ça sera dans très longtemps. Ok ? Et alors, Jean-Paul II avait demandé au cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, de préparer ça. Entre-temps, Jean-Paul II est mort, Ratzinger est devenu pape lui-même, et donc le Ratzinger, qui avait dû faire ce travail sur demande de Jean-Paul II, l'a publié comme Benoît XVI, en tant que Benoît XVI. Ça va ? Et donc c'est l'abrégé donc, du catéchisme. Donc comme le nom l'indique, c'est plus court, et c'est sous forme de questions-réponses, donc c'est ça qui est sympa. Des questions, donc c'est en caractère gras, et puis vous avez les réponses, et en général, franchement, c'est pas plus de 5 lignes, quoi. Vous voyez ? Et dans les marges, à droite et à gauche, vous avez les numéros des paragraphes du CEC. CEC, c'est CEC, Catéchisme de l'Église catholique. J'en parlerai souvent. Ok ? Ça va ? Donc pour les cours de caté que je ferai donc le mercredi soir, de 19 à 20h, hors vacances scolaires, je m'appuierai essentiellement sur cet ouvrage. Tu l'as un peu vieux, mais tu vois, il est tout neuf, tout beau.
Il est à vendre.
Il est à vendre ?
Oui.
Ah ouais. Et c'est 22 euros ou pas ?
C'est 22 euros.
C'est ça. C'est marqué 18 là, mais ils ont augmenté depuis. C'est vrai en plus. Non, c'est vrai. Non, on n'est pas en train de vous rouler, quoi, c'est ce que je veux dire. C'est vraiment 22 euros. On ne fait aucune marge. Ça va ? Donc vraiment, venez avec cette affaire-là les prochaines fois. C'est plus facile à emporter. Voilà. Alors, le catéchisme. Donc, le catéchisme catholique, donc ça, c'est l'abrégé, hein, le cardinal Lustiger, l'archevêque de Paris, l'ancien archevêque de Paris, hein, qui est mort en 2007, avait dit que pour lui, c'était une bouteille à la mer. C'est-à-dire que c'est tellement riche, il y a tellement de références des pères de l'Église, des conciles, des saints, qu'il disait franchement, je ne sais pas si on serait capable maintenant, nous, de refaire un truc comme ça. Tellement c'est quand même prodigieux. Voilà, donc je vous invite, si vous pouvez, acheter les deux, en fait. Hein. Vous avez tout là-dedans. Vous avez tout. Alors c'est la même foi, hein. La foi catholique n'a pas changé. C'est pas que l'Église change de foi tous les 400 ans, quoi. Hein. Mais c'est que la manière de dire cette foi évidemment évolue. On ne parle plus au 21e siècle comme on parlait au 16e, au 15e. Et puis évidemment, le catéchisme intègre les questions et les défis actuels. Donc vous voyez, je sais pas moi, l'écologie humaine intégrale, les armes de destruction massive, les guerres, tout ça, bon, évidemment, il y a plein de choses qui ont évolué quand même. Donc forcément, la foi nous fait poser un regard nouveau sur ces questions nouvelles. Dans le catéchisme de l'Église catholique, vous avez 4 grandes parties. La première partie, c'est sur la profession de la foi, donc ce qu'on appelle le credo, les grands articles du credo. Les grands articles de la foi. C'est ce qui va nous occuper cette année. Voilà. Donc, on va scruter le credo. Pour ceux qui ont suivi les cours que j'ai donnés le dimanche matin l'an dernier, il y a des choses que je vais redire, mais c'est pas grave. Si vraiment vous avez l'impression de perdre votre temps, à ce moment-là, vous pouvez prendre ma place et donner cours à ma place. Moi, ça me libérera. Deuxième grande partie, c'est ce qu'on appelle la célébration du mystère chrétien. La première partie étant la proclamation du mystère chrétien, la profession de la foi. La deuxième grande partie, donc, c'est la célébration du mystère chrétien, dans laquelle donc, vous avez toute la partie sur les sacrements, les sept sacrements. Parce que ce mystère que nous croyons dans la profession de la foi, il faut évidemment le célébrer. Et donc il se célèbre par notamment les sacrements, les sept sacrements. Ok ? Voilà. Ensuite, et puis vous avez... Voilà, bref, on va se limiter à ça. Ensuite, vous avez une troisième grande partie. Donc la foi, le mystère à croire, ensuite le mystère à célébrer, donc les sacrements. La troisième grande partie, c'est la vie dans le Christ. Ce mystère qui est cru et qui est célébré, il faut en vivre. C'est un mystère donc à vivre. Donc la vie dans le Christ, ça s'appelle la vie dans le Christ. Donc vous avez toute la partie sur ce qu'on appelle la morale chrétienne. Notre vocation à la béatitude, puis la liberté, la moralité des actes humains, les passions, les vertus, les vices, le péché, etc. Et puis, tout ce qu'on appelle les commandements, les 10 commandements, voilà, toutes ces balises que Dieu nous a données pour vivre de la foi. Ça va ? Parce que la conversion pour nous, c'est à la fois au niveau de la foi et à la fois au niveau de ce qu'on appelle la morale, la manière concrète de vivre. D'accord ? Notre adhésion au Christ, elle se fait et dans le cœur, et dans l'intelligence, et dans l'action concrète. C'est ce qu'on a entendu récemment dans l'Évangile. Jésus dit, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut encore vivre de cette parole de Dieu que vous écoutez, que vous entendez, que vous recevez. Et la quatrième et dernière grande partie, qui est magnifique, c'est sur la prière. La prière chrétienne. C'est vraiment un traité de vie spirituelle. D'accord ? Donc, première grande partie, la foi, profession de la foi. Deuxième grande partie, la célébration du mystère chrétien, donc notamment les sacrements. Troisième grande partie, la vie dans le Christ, donc ce qu'on appelle la vie morale, quoi. Et la quatrième partie, la prière. Ça va ? Alors nous, ça va nous occuper pas mal de temps. On va commencer par donc la première partie. L'idée, c'est qu'on va faire les quatre parties en 2 ans. Ça va ? Donc cette année, on va faire les deux premières parties. Et donc on va commencer par le commencement. Vous voyez, c'est tout bête. Je prends la page 1. Il y a du blabla avant. Benoît XVI qui explique pourquoi il a fait ça. Là, je vous laisse lire. Il y a des jolies petites images, vous verrez. Sympa. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on va commencer. Il y a quand même des trucs. Bon. Par donc la première grande partie sur la foi. Alors, ce que je ferai, vous verrez. Bon, la prochaine, vous aurez le bouquin avec vous. Donc, je vous invite à vous ruer sur la librairie d'Emmanuel. C'est ça ?
Ah oui.
Par exemple. Rue Sainte-Hélène, c'est ça ? Et donc, vous pourrez commander vos ouvrages. Donc, je vous renverrai au numéro des paragraphes de l'abrégé. OK ? Ça va ? Et donc, les premières questions, les premières questions visent le préambule avant d'entrer dans cette première partie sur la foi. Donc, il va y avoir plusieurs points introductifs pour nous aider à comprendre... quels sont les outils nécessaires pour entrer dans cette première grande partie sur la confession de la foi. Alors, autre chose, vous m'interrompez quand vous voulez. Vous voyez, je ne fais pas un cours, là, ex cathedra, vous taisez, vous prenez des notes et je parle. Enfin, y a un peu de ça aussi, mais en fait, vous m'interrompez quand vous voulez, d'accord ? Moi, je préfère un truc plutôt interactif, plutôt que vous soyez tous des carpes, là, et puis vous dites rien. Ça va, ça, ou pas ? Faut pas hésiter. Il n'y a pas de questions débiles. Il n'y a que des réponses qui peuvent être débiles. Et comme c'est moi qui vais donner les réponses, ne vous inquiétez pas, il n'y a que moi qui pourrais te dire un truc débile. Ça va ? On va demander Charlotte.
Oui.
Super. Vous avez compris, elle s'appelle Charlotte. Voilà, puisqu'on accueille aussi donc parmi nous, les catéchumènes, ceux qui se préparent au baptême, et puis ceux qui se préparent à la confirmation. Ceux qui se préparent au baptême, est-ce que vous pouvez lever le doigt, s'il vous plaît ? Voilà. Bienvenue, ceux qui se préparent à la confirmation. Voilà. Et puis il y en a qui sont fraîchement baptisés et confirmés. On les appelle des néophytes. Voilà. Ceux qui ont été baptisés récemment, là, ça va. Ah oui, non. Voilà, il y a ceux qui ont été baptisés, tout court. Et puis ceux qui ont été baptisés et confirmés. Voilà. Voilà, voilà. On a même Keith qui est américain avec nous. Vous voyez, c'est très, très international, cette pièce. Alors, ce que je vais faire, c'est que... ce qu'on fera, c'est que quelqu'un lira la question et la réponse. Moi, je vais le faire parce que vous n'avez pas le texte. Et puis, on commentera au fur et à mesure. Ça va ? Vraiment, je vous invite, quand vous entendez les questions et réponses, à noter ce qui vous paraît. Ah, ça, c'est génial. Si vous trouvez ça nul... inintéressant, vous notez rien. En général, il y a quand même des choses intéressantes. Et puis, vous notez les questions que vous avez, les interrogations, les trucs pas clairs. Vous voyez, c'est en notant, en posant les questions qu'on retient. Moi, franchement, je le sais plus ou moins, ça. Donc, ce qui va être plus intéressant, même pour moi, c'est les questions. Ça va ou pas ? Alors, première question, quel est le dessein de Dieu sur l'homme ? Le dessein de Dieu, quel est le projet de Dieu sur l'homme ? Je vous lis la réponse. Infiniment parfait et bienheureux en lui-même, Dieu, dans un dessein de pure bonté, a librement créé l'homme pour le rendre participant de sa vie bienheureuse. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu le Père a envoyé son Fils comme rédempteur et sauveur des hommes tombés dans le péché, pour les appeler dans son Église et pour leur donner d'être ses fils adoptifs par l'action de l'Esprit Saint et les héritiers de son éternité bienheureuse. Je vais préciser. Évidemment, les réponses sont denses. Hein. Mais c'est pas mal. C'est intéressant de voir comment on peut résumer la foi. Vous voyez, la foi, elle se dit... La foi, c'est une expérience personnelle. C'est une expérience ecclésiale. Quand je dis personnelle, c'est pas solitaire ni individuel. Hein. C'est personnel, la personne est faisant partie d'une communauté. Ce qu'on appelle l'Église. Donc il y a une dimension personnelle de la foi. Une dimension communautaire, ecclésiale de la foi. Et du coup, cette foi, elle est appelée à se transmettre. Et elle se transmet par la parole, notamment. C'est ce que dit saint Paul. Hein. Fides ex auditu, la foi naît, du verbe d'être, naît de ce que l'on entend. La foi naît de ce que l'on entend. S'il n'y a personne pour dire la foi, il n'y aura personne pour la croire. Si vous voulez tuer la foi, vous vous taisez. Parce que la foi se transmet par ce qu'on dit, hein, par ce qu'on entend. Alors, quel est le projet de Dieu sur l'homme, hein? Donc, vous avez en quelques lignes hein, le résumé de tout le dessein de Dieu, ce qui est une gageure. C'est quoi ? C'est nous rendre participants de sa vie bienheureuse. Le but de tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'on va voir là pendant 2 ans, c'est de nous introduire dans l'éternité bienheureuse. C'est-à-dire, nous sommes faits pour le ciel, nous sommes faits pour le paradis. Vous voyez, on est fait pour ça. Notre cœur est fait pour ça. Ce que dit saint Augustin, notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure pas en toi. Je suis fait pour reposer en Dieu. Ce repos, c'est pas la sieste où on fait rien. Le repos, c'est en fait, on est en repos quand on est en paix. Je suis fait pour ça. Et je suis fait pour quoi ? Mon cœur. Tous, hein, même les non-chrétiens, hein, ce que je vous dis, c'est valable pour tout le monde. Hein. Chrétiens ou non-chrétiens, nous sommes tous faits pour voir Dieu un jour. Et la vie éternelle, c'est quoi ? C'est la vision de Dieu. C'est ce que disait d'ailleurs saint Irénée. Hein. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Je suis fait pour voir Dieu. Ça va ? Création d'être imparfait par un être qui, lui, est parfait. Dieu est parfait et il nous a créé forcément imparfait. Parce que Dieu étant parfait, il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. La perfection, on avait vu ça l'an dernier, vous vous souvenez, hein, la perfection nécessite l'unité. Si Dieu est parfait, forcément il est un. Le multiple signifie qu'il y a de l'imperfection. Ouais.
Il nous a créé à son image.
Ouais, à son image. À son image. Mais je ne suis pas l'image de Dieu. Il y en a un seul qui est l'image parfaite de Dieu, c'est le Fils. On verra ça quand on verra la Trinité. Hein. Mais nous, nous sommes à l'image de Dieu. Le Fils, lui, il est l'image de Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'il me voit, voit le Père. Nous, nous sommes à l'image de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes nous sommes vraiment, on verra ce que ça veut dire hein, plus tard, mais nous restons quand même des êtres imparfaits. Le fait d'être créé nécessite nécessairement d'être imparfait. Une créature, par définition, est imparfaite. Quelle est la première des imperfections d'une créature ? C'est qu'elle ne s'est pas donnée à elle-même l'existence. Je ne suis pas la cause de moi-même. Seul Dieu est la cause de lui-même. On l'appelle d'ailleurs hein, Deus causa sui. Il est la cause de lui-même. Moi, je ne suis pas la cause de moi-même. Alors, imperfection, ça veut dire qu'il n'est pas parfait. Donc, il manque quelque chose. Ah bah, une des caractéristiques de la perfection, c'est pas la seule, mais c'est d'être d'être à la source de soi-même. Moi, je ne suis pas la source de mon propre être. Dieu, lui, il n'a pas de cause. Le fait d'être causé, c'est-à-dire d'avoir une cause en dehors de soi, est une imperfection. Parce que je dépends d'un être. En fait, c'est ça. Dieu ne dépend de personne. Nous, nous dépendons tous de quelqu'un d'autre. Je dépends de papa et maman. Si papa et maman ne s'étaient pas rencontrés, je ne serais pas là, par exemple. Je dépends de la nourriture, de la boisson, des vêtements, de plein d'autres choses, de mes amis. J'ai besoin de... Voilà, nous sommes des êtres de besoin aussi, quoi. Dieu, en tant que Dieu, n'a besoin de personne pour exister et pour être heureux. Il faut partir de là pour comprendre, du coup, pourquoi Dieu nous a créés. Il ne nous a pas créés par nécessité. Il est parfait. Il est à lui-même la source de toute sa béatitude. Et en lui, rien ne manque. En lui, rien ne manque. D'accord ? Donc, en gros, hein, le dessein de Dieu sur l'homme, c'est quoi ? C'est de faire entrer l'homme dans l'éternité bienheureuse. De le faire entrer dans la gloire du ciel. Tout ce qu'on va voir, la foi, les sacrements, la préparation au baptême, la communion, machin, la conversion, a pour but le ciel. Un jour, d'entrer dans le ciel. Et quand on entrera dans le ciel, si nous y entrons, parce que c'est pas automatique, on verra ça aussi, ben, tout le reste sera caduque. Il n'y aura plus de sacrements, plus de messe au ciel, hein, plus de confession, plus de sacrement des malades, plus de cours du caté à 19h le mercredi soir, plus d'emmerde, plus de deuil, plus de tristesse, plus de problèmes. Vous voyez, plus... Ça va être sympa. Hein. Voilà, et donc nous sommes appelés à être des héritiers. On va beaucoup parler d'héritage, l'héritage de la vie éternelle. Héritier, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que nous sommes fils du Père, et le Père nous donne son héritage. Je vous renvoie à la parabole Luc 15, hein, la parabole du fils prodigue. Hein. Un père avait deux fils, et un des deux qui demande son héritage. Donne-moi la part d'héritage qui me revient. Deuxième question. Pourquoi y a-t-il en l'homme le désir de l'homme, de Dieu ? Pourquoi y a-t-il en l'homme le désir de Dieu ? C'est une question qui est importante. Il y a en l'homme un désir naturel de Dieu. La question, c'est pourquoi ? Réponse. En créant l'homme à son image, Dieu lui-même a inscrit dans son cœur le désir de le voir. Même si un tel désir est ignoré de l'homme, Dieu ne cesse d'attirer l'homme à lui pour qu'il vive et trouve en lui la plénitude de vérité et de bonheur qu'il ne cesse de chercher. Par nature et par vocation, l'homme est donc un être religieux, capable d'entrer en communion avec Dieu. Ce lien intime et vital avec Dieu confère à l'homme sa dignité fondamentale. Ça, c'est hyper important. Ça fait couler l'encre de plein de théologiens pendant des siècles, notamment pendant la période médiévale. Le fait qu'il y a... Et même moderne. Hein. Le fait que est inscrit dans le cœur de l'homme. Quand je dis de l'homme, c'est homme et femme. Hein. En français, c'est neutre. Je ne vais pas rentrer dans ces questions de... Ça va ? Donc quand je dis l'homme, en français, l'homme, c'est pas genré. C'est le masculin et le féminin. D'accord ? Quand on dit dans le credo, pour nous les hommes et pour notre salut, c'est pas pour nous les mâles, hein. C'est pour nous les êtres humains, en fait. Hein. Donc, il y a inscrit dans le cœur de l'homme un désir naturel de voir Dieu. Ce désir est naturel, ça veut dire qu'il est inscrit dans le cœur de tout homme, chrétien ou pas, baptisé ou pas. Il y a inscrit en nous, il y a une soif originelle de Dieu en nous. Je suis né assoiffé de Dieu. Que j'en sois conscient ou pas, ce que dit la réponse. Hein. Même si un tel désir est ignoré de l'homme. Parfois, pour certains, ce désir est ignoré, ils ne le savent pas. Mais je suis fait naturellement pour voir Dieu. Saint Thomas d'Aquin parlait du désir naturel, du surnaturel. Un désir naturel, naturel, c'est-à-dire qu'il est inscrit en nous, du surnaturel, c'est-à-dire de Dieu. Je suis naturellement fait pour le surnaturel. Ça va ? Je vous renvoie encore à ce truc de Saint Augustin. Hein. Notre cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. C'est-à-dire que mon cœur, c'est-à-dire ma nature humaine. Je suis fait pour Dieu. Et donc, tant que je ne rencontre pas Dieu, je ne pourrai jamais être heureux. Ça, c'est l'affirmation fondamentale. Parce que je suis créé par Dieu. Donc, je suis fait pour celui qui m'a créé. Il y a un sens, on verra ça dans la Genèse. Hein. Il y a un sens. J'ai pas été balancé dans la création comme ça, et puis débrouillez-vous pour trouver le sens de votre vie. Non, j'ai été créé, façonné avec une soif. Mais heureusement, de façon naturelle, heureusement qu'on a soif, sinon si on n'avait pas soif, on ne boirait pas. Quoi. Non, mais c'est tout bête hein, ce que je dis. Mais heureusement qu'on a la sensation de la soif. Heureusement qu'on a la sensation de la chaleur, de la transpiration, de tout ça, parce que c'est des signaux d'alerte naturels qui font que faut que tu ailles aux toilettes, faut que tu ailles manger, boire et tout, sinon tu vas dépérir. Quoi. Il y a des maladies comme ça où les gens n'ont plus la sensation de la faim, par exemple. Et donc, ils mangent. Mais il y a un problème qui fait qu'ils n'ont plus la sensation de la faim. Bah, c'est embêtant, quoi. Notre corps est bien fait. Bon, et ben, ce qu'on vit au niveau naturel des sens, des cinq sens, on le vit aussi au niveau surnaturel. Je suis dans ma nature humaine, d'homme et de femme, je suis fait pour voir Dieu. Et donc, du coup, je vais avoir des réactions spirituelles, si vous voulez. Des alertes spirituelles. Quelqu'un qui va structurer sa vie autour du mensonge et de la haine, il va être malheureux. Même s'il ne croit pas en Dieu, il va être malheureux parce qu'il n'est pas fait pour ça. Et si je vous mets dans une pièce sans oxygène, à un moment, ça va être compliqué quand même. Je peux pas dire non, moi je suis au-dessus de tout ça. Mais non, je suis dans tout ça, je suis fait pour l'oxygène. Ben, je suis fait pour l'oxygène spirituel aussi. C'est inscrit en moi. Sartre, qui n'est pas un docteur de l'Église, hein, mais avait quand même des bonnes formules parfois, hein, il disait « L'homme est condamné à être libre. » Je suis condamné à être libre. Voilà, je suis fait pour ça. Après, ce que met Sartre derrière la liberté, c'est autre chose. Mais voilà. Ça va ça ou pas ? Ouais. Ah oui, oula, alors là, ouais, bonne question. Ça va être difficile de répondre maintenant, là, en deux secondes. La question, c'est qu'est-ce que le bonheur pour nous chrétiens ? Alors, il faudrait prendre des décennies pour répondre à cette question. Hein. Mais une première. Pour nous, le bonheur, on envoie une image dans les béatitudes. Matthieu 5, Saint Matthieu chapitre 5. Hein. Le bonheur pour nous, c'est d'être avec Dieu et de vivre selon Dieu. Le bien, le vrai, etc. On est fait pour ça. Mais on en parlera, hein, parce que ça fait partie d'une des parties hein, du catéchisme. Hein. Mais le bonheur, c'est quand on parle de bonheur véritable, pour nous, chrétiens, c'est pas seulement être content. Quoi. C'est plus que le plaisir. On parle de la joie. Le plaisir, vous prenez, je sais pas, ça dépend des goûts de chacun, hein, c'est compliqué. Hein. Vous prenez un bon plat de nourriture dont vous raffolez, et puis vous en mangez des... Bon, vous avez un instant de plaisir, et puis si vous partez dans l'excès de quantité, vous allez avoir un instant de dégoût. C'est compliqué. Puis si vous continuez, ça va mal se terminer. La joie, elle dure. Elle n'est pas éphémère. la joie profonde. Toujours associée à la paix aussi. La joie et la paix. Mais le bonheur, c'est la joie qui résulte de l'amitié avec Dieu. C'est la joie qui résulte de l'amitié avec Dieu. Et de la suite du bien. Voilà. Celui qui fait le bien, il est fondamentalement heureux. Celui qui fait le mal, à terme, il sera malheureux. Il va être heureux peut-être, il va être content sur le coup. Il aura une satisfaction immédiate. La vengeance, par exemple. Sur le coup, je suis content. Et après, c'est un espèce de fruit amer dans la bouche. Parce que je ne suis pas fait pour ça. De la même manière, des actes de sainteté, des actes de charité, sur le coup, quand vous le faites, ça vous arrache le bide. En fait, vous êtes heureux, ça vous donne la paix. Vous savez que vous avez fait ce qu'il fallait faire et ce que vous voulez fondamentalement. Parce qu'on peut avoir on peut avoir une affectivité qui va dans un sens et puis la volonté qui va dans l'autre. L'exemple célèbre de Sainte Thérèse de Lisieux, hein, qui avait dans son couvent une bonne sœur qui faisait des bruits avec ses dents, là, c'était insupportable. Au cœur, là, elle se grattait une dent, ça, tout le temps. Là. Comme ça, c'est rigolo, hein, mais tout le temps, elle a décidé de lui faire ses plus beaux sourires. Effectivement, elle avait envie de la tarter. Elle le dit, hein, avec des mots de Sainte Thérèse de Lisieux, hein. Mais clairement, elle n'en pouvait plus, quoi. Mais au niveau de sa volonté, de sa charité, elle a décidé d'aller dans le sens contraire. C'est pas de l'hypocrisie, hein. L'hypocrite, c'est celui qui fait un sourire Mais en fait, et son affectivité et sa volonté vont dans le même sens, la moquerie. Là, Sainte Thérèse, c'est autre chose. Elle a l'affectivité qui va dans un sens et sa volonté qui va dans l'autre. C'est dur, hein. Ça s'appelle la vertu. Ça vient par l'exercice, petit à petit. Ça va ? Question 3. Peut-on connaître Dieu avec la seule lumière de la raison ? Cette question, elle a été traitée notamment au Concile Vatican I. Vous savez qu'il y a eu 20 grands conciles écuméniques. Écuménique, ça veut dire qui réunit toute l'Église, quoi. Le dernier étant Vatican II, en 1962 à 65, et celui d'avant, donc c'était en Vatican I, en 1870-71. Et notamment, l'une des grandes questions de Vatican I, ça a été cette question-là. Est-ce que je peux, par les seules forces de la raison, découvrir l'existence de Dieu ? Et la réponse est oui. La réponse est oui. Je voudrais donner la réponse. À partir de la création, c'est-à-dire du monde et de la personne humaine, l'homme, par sa seule raison, donc on ne parle pas de la révélation, là, de la Bible, hein, par sa seule raison, peut avec certitude, ça c'est important, avec certitude, c'est-à-dire sans doute, sans aucun doute, connaître Dieu comme origine et fin de l'univers, comme souverain bien et comme vérité et beauté infinie. Donc là, je ne vous parle pas de la Trinité, là. Je ne suis pas en train de parler du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ça, il faut la révélation pour ça. Là, je vous parle du fait que Dieu est unique, un seul Dieu. Ce qu'on appelle le monothéisme. La découverte avec certitude de l'existence d'un seul Dieu, du Dieu unique, créateur, provident, tout ça. L'Église affirme que l'homme, par sa seule raison, peut en découvrir l'existence. On en a des exemples célèbres, hein. Des grands philosophes, Aristote, Platon, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, des Grecs païens, hein. C'était pas juif, c'était des païens, hein. Platon et Aristote, pour ne citer qu'eux, mais il y en a plein d'autres. Bon, ils ont découvert avec certitude, pour eux, l'existence de ce qu'ils appelaient un être premier. Aristote va dire que c'est un acte pur, etc. Enfin, bon, il va tout expliquer plein de choses. Parce que quand vous lisez ce que découvre Aristote, encore une fois, je répète, hein, disciple de Platon, 4e siècle avant Jésus-Christ, un grec, c'est dingue. C'est incroyable, hein, ce qu'il dit. Hein. Saint Thomas d'Aquin s'en est inspiré largement. D'accord ? Donc on a des preuves factuelles, enfin, on a des exemples plutôt, pas des preuves, des exemples de grands penseurs païens qui n'avaient pas de croyances religieuses au départ et qui ont découvert l'existence de Dieu. Par l'usage de l'intelligence et la contemplation du monde. D'accord ? Ça va, ça, ou pas ? C'est une grande affirmation, en fait. Hein. C'est une grande espérance dans l'intelligence humaine, hein, et dans le cœur humain. Je peux, par les seules forces de ma raison, découvrir avec certitude que Dieu existe, que Dieu est unique, qu'il est ma créateur, provident, bienveillant, etc. Et donc, si je peux le faire, ça veut dire que je suis appelé à le faire. Vous voyez, une foi, pour nous, là, chrétiens, ou qui voulons le devenir, ça veut dire que c'est un devoir pour un chrétien d'utiliser son intelligence, de la faire fonctionner. Saint Jean 23, le pape, il y a 50 ans, il disait c'est un devoir pour l'homme d'aller jusqu'au bout de sa raison. Pas à mi-chemin, pas « ouais, bon, c'est pas mal, mais bon, je vais simplement lire le catéchisme et je saurai tout ». Mais non, il faut utiliser son intelligence, quoi. Il nous a donné une intelligence, il faut vraiment qu'on l'utilise à fond, quoi. Parce que la foi, c'est une lumière pour l'intelligence. Plus vous scrutez la foi avec l'intelligence, plus vous allez avoir de la lumière dans les yeux, quoi. Ça qui est magnifique. La foi, c'est tout sauf « Oh, bah, bon, il n'y a rien à comprendre, circuler, moi je crois, parce qu'il n'y a rien à comprendre. » Non, non, la foi, c'est pas un trou noir. C'est un soleil, quoi. Saint Thomas d'Aquin, il disait « Un mystère, c'est pas une absence de connaissance, c'est un... » Il dit « Un excès d'intelligibilité. » Ça veut dire ça déborde d'intelligence, quoi. Donc commençons à scruter tout ça, parce qu'on n'aura jamais fini de l'épuiser, quoi. Donc vous voyez, quand les gens disent « Oh, ma brave dame, c'est un mystère. » Bon, en français, ça veut dire, dans le langage courant, c'est un mystère, c'est-à-dire « mystère et boule de gomme », quoi. Je comprends rien, mais le mystère au sens chrétien n'a rien à voir avec ça. Pour nous, le mystère au sens chrétien, c'est un truc de dingue. Une lumière pour le cœur et l'intelligence. D'accord ? C'est important, ça, hein, c'est pas... Question 4. Suffit-il de la lumière de la raison pour connaître le mystère de Dieu ? Bonne question. Suffit-il de la lumière de la raison, de l'intelligence humaine, toute seule, hein, livrée à elle-même, pour connaître le mystère de Dieu ? Réponse. Dans sa connaissance de Dieu par la seule lumière de sa raison, l'homme rencontre beaucoup de difficultés. Ouais. On a dit avant que c'est possible, mais le catéchisme rajoute « c'est compliqué ». De plus, il ne peut entrer par lui-même dans l'intimité du mystère divin. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours ce qu'on appelle la grâce de Dieu pour entrer dans son propre mystère. On n'entre pas chez Dieu en Dieu par effraction. On y entre parce que Dieu m'y a fait entrer lui-même. C'est pourquoi Dieu a voulu l'éclairer, donc éclairer le mystère divin, et éclairer l'homme qui cherche ce mystère divin. C'est pourquoi Dieu a voulu l'éclairer par sa révélation, non seulement sur les vérités qui dépassent la compréhension humaine, mais aussi sur les vérités religieuses et morales, qui, tout en étant en elles-mêmes accessibles à la raison, peuvent ainsi être connus de tous sans difficulté, avec une ferme certitude et sans risque d'erreur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bon, l'intelligence livrée à elle-même, elle peut découvrir plein de choses, mais dit le catéchisme, ça va quand même être difficile. Pas impossible, hein ? C'est pas mission impossible. C'est mission difficile. Et donc, il va falloir l'aide de la révélation. Quand on parle de la révélation, c'est quoi ? C'est la révélation de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui vient nous envoyer sa lumière. Vous avez la lumière naturelle de l'intelligence humaine. Quand on dit naturelle, c'est-à-dire de la nature humaine. Dans mon intelligence, j'ai la capacité de discerner la vérité. D'accord ? Ça s'appelle l'intelligence. L'intelligence, c'est une espèce de laser qui vous permet de scruter le vrai. Quand je vous dis ça, c'est un livre. J'ai fait usage de mon intelligence, qui est une lumière. Si je vous dis ça, c'est un éléphant rose, vous allez me dire, bah, non, je vous aime beaucoup, mais non. Qu'est-ce qui me permet de dire avec certitude, sans me tromper, que c'est un livre ? Bah, c'est notamment par l'usage de mon intellect, de mon intelligence et d'expérience. J'ai fait l'expérience avant de plusieurs livres, et puis j'ai découvert ce que c'est qu'un livre. Ça, je sais que c'est pas un livre. Ça va ? Donc, la révélation, c'est quoi ? C'est la lumière qui vient de Dieu. J'ai une lumière naturelle en moi, qui m'a été donnée par Dieu, hein, mais c'est naturel, ça appartient à ma nature. Mais ça, elle est limitée, cette lumière. J'ai besoin d'une lumière bien plus grande qui, elle, vient de Dieu. Cette lumière qui me révèle Dieu s'appelle la révélation. On le dit d'ailleurs en français, hein, de façon abusive, hein, mais quand on dit « Ah, c'est une véritable révélation !» Vous allez à une conférence de quelqu'un, « Ah, c'était une révélation pour moi !» Bon, mais bon, on s'emballe pas, en fait, c'est pas une révélation, mais quand même, quand on dit révélation, ça veut dire qu'il y a une lumière nouvelle qui n'est pas sortie de moi et qui m'a été donnée par quelqu'un d'autre. Et ça m'a carrément ébloui, ou voilà. Bon, bah, évidemment, la révélation avec un grand R, c'est celle de Dieu. Dieu qui nous donne sa lumière. Dans ta lumière, dit le psaume, dans ta lumière, nous verrons la lumière. C'est marrant comme expression. Dans ta lumière, dans la lumière que tu me donnes, je verrai ta lumière, toi qui es la lumière. Lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Ça va ? Donc la révélation me permet d'accéder à des vérités qui dépassent l'intelligence humaine. Quand on dit que ça la dépasse, ça ne veut pas dire qu'elle ne comprend rien. Ça veut dire simplement qu'elle accède à des choses qui, par elles-mêmes, sont inaccessibles. Vous voyez ? Vous, par exemple, vous avez le mont Everest à gravir. Et vous êtes Kudjat. On est tous intellectuellement des Kudjat. Ça ne va pas le faire, quoi. C'est compliqué. Bon, vous allez toujours me sortir le gars qui a réussi l'exploit du siècle. Bon, on enlève ce gars-là. Hein. Mais pour le commun des mortels, ce n'est pas possible. Donc comment je vais faire pour aller là-haut ? Le but de la vie humaine, c'est quoi ? C'est d'aller non seulement au sommet de l'Everest, mais carrément aller sur la montagne de Dieu. Mais déjà, sur le sommet de l'Everest, c'est compliqué. Bon, bah, la révélation, c'est quoi ? C'est une espèce d'hélicoptère qui va vous monter en haut de l'Everest. Déjà, vous allez découvrir des choses sur vous-même, mais que vous n'aurez jamais pu découvrir par vous-même, d'accord ? Sur vous-même, mais que vous n'aurez pas pu découvrir par vous-même, tout seul. Et puis l'hélico, il va carrément vous emmener sur l'autre montagne, la montagne véritable de Dieu. Et là, vous allez voir Dieu tel qu'il est. Et là, c'est la grâce de Dieu qui va vous mener, ça sera ce qui se passera au ciel, hein, au paradis, mais découvrir Dieu tel qu'il est. Et entre le mont Everest et cette montagne de Dieu, hein, il va y avoir des vérités aussi sur Dieu que vous allez découvrir durant votre vie ici-bas. La Trinité, les sacrements, la grâce, tout ça. Ça, c'est des choses sur Dieu qu'on ne peut pas découvrir par soi-même. Aristote, le plus intelligent des philosophes, ou n'importe qui d'autre, n'aurait jamais pu découvrir le mystère de la Trinité, les sacrements, l'Église, tout seul. C'est impossible, il faut une révélation pour ça. Donc la révélation, elle vise trois choses. Des vérités naturelles sur vous-même et sur le monde. Des vérités sur Dieu. Et puis au ciel, Dieu lui-même. Nous verrons Dieu lui-même, tel qu'il a dit saint Jean. Ça, ici-bas, personne ne peut voir Dieu tel qu'il est. Impossible. C'est ce que dit saint Jean, hein. On ne peut pas voir Dieu. Enfin, nul n'a jamais vu Dieu. Dieu, personne ne l'a jamais vu, hein, dit saint Jean. Au sens de le voir tel qu'il est. Ce qu'on appelle l'essence divine, l'être divin lui-même. Impossible. Il faut mourir pour ça. Seuls ceux qui sont au paradis voient l'être même de Dieu directement, face à face. Ça va, ça ?
Mais pourtant, on dit quand même que Jésus, c'est l'image de Dieu. Est-ce que vous avez
dit ? Oui, tout à fait.
C'est vraiment l'image et c'est Dieu lui-même.
Ah non, c'est Dieu lui-même. Mais quand je vous dis voir Dieu tel qu'il est, c'est la gloire de Dieu.
Mais c'est bien tel qu'il était aussi.
Oui, mais est-ce que les apôtres ont vu ? D'ailleurs, Philippe, il demande ça. Bah, Jésus, montre-nous le Père. Vous vous souvenez ? Et Jésus dit, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, et tu me demandes cette question. Ne sais-tu pas que qui me voit le Père ? Ah, d'accord, oui. Mais c'est ce que dit Jésus. Hein. Il dit ça, hein, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, et tu me poses encore cette question, Philippe. Qui me voit le Père. Mais... Donc ça, effectivement, celui qu'ils ont vu, c'est vraiment Dieu lui-même. Hein. Mais ils ont vu Dieu, c'est-à-dire celui qu'ils voyaient, c'était Dieu. Mais eux ne l'ont pas pleinement vu avec leur capacité de leur côté. Toi, si je te mets en présence du soleil, je te dis ouvre les yeux, tu vas voir le soleil. Mais ça va être compliqué quand même pour toi. Et tu vas vite fermer les yeux parce que tu ne peux pas voir le soleil tel qu'il est. Bah, au paradis, nous pourrons voir le soleil divin, si tu veux, l'être même, Dieu lui-même, tel qu'il est. Mais on verra comment, mais pas aujourd'hui, plus tard. Mais Dieu nous équipera. Il rendra notre âme capable de voir celui que nous ne pouvons pour le moment pas voir. Ça, c'est le bonheur du ciel. Hein. C'est la vision de Dieu. Donc quand on parle de la vision de quelqu'un ou d'un objet, on parle de l'objet de la vision et de la vision elle-même. Donc je peux voir quelqu'un, ce quelqu'un c'est vraiment lui, mais je ne le vois pas complètement parce que je n'ai pas la capacité de voir. C'est un peu comme la guérison de l'aveugle, vous savez, qui s'est fait en deux temps dans l'évangile. Jésus lui met de la salive sur les yeux et puis lui dit « Ouvre les yeux, tu vois quoi ?» Je vois des personnes comme des arbres dans des formes très confuses. Vous vous souvenez, hein ? Jésus, il lui remet une couche, et là, que tu vois ? Et là, il voit parfaitement. C'est un peu une image aussi hein, de cette vision qu'on a ici-bas, floue, par la foi, et de la vision nette qu'on aura au ciel. Ça va ? Donc, il y a différents types de vérités. Il y a des vérités naturelles, ok ? Qu'on peut découvrir par les seules forces de la nature, de l'intelligence. Et puis, il y a des vérités surnaturelles qui concernent Dieu et le projet de Dieu sur l'homme. Je suis fait pour la vie éternelle. Bon, ça, il me faut une révélation pour m'aider à comprendre ça. Le bonheur réside dans les béatitudes, par exemple. Voilà. Bon, bah, il me faut une révélation pour comprendre ça. On vous a dit œil pour œil, dent pour dent, ben moi je vous dis aimez vos ennemis. Ben, il faut une révélation pour comprendre ça, l'entendre et commencer à l'accepter. En vivre, n'en parlons pas. Il faut une révélation pour ça, c'est-à-dire il faut l'aide de Dieu. Il faut que Dieu sorte de ces nuages, qu'il se révèle, qu'il me parle, qu'il me donne un message et qu'il me montre le chemin. Sinon, c'est impossible. D'où la nécessité de l'évangélisation. Je vous répète, fidex ex auditu, la foi naît de ce que l'on entend. Si je ne la dis pas, il n'y aura personne pour la croire. Il faut une révélation. Quand vous parlez, quand vous évangélisez, vous participez à l'acte de révélation de Dieu. Parce que cette vérité que vous dites, ce témoignage que vous faites, ça ne vient pas de vous. C'est par grâce de Dieu. J'ai, par grâce de Dieu, eu l'expérience de Dieu, moi je vais t'en parler. Et je te souhaite, toi aussi, d'en faire une tout à fait personnelle. Ce ne sera pas la même que la mienne. Par contre, ce sera le même Dieu que tu verras, tu toucheras, que tu feras l'expérience. Question numéro 5. Comment parler de Dieu ? La réponse, je vous lis. On peut parler de Dieu à tous les hommes et avec tous les hommes, à partir des perfections de l'homme et des autres créatures qui sont un reflet, bien que limité, de la perfection infinie de Dieu. Les perfections que nous voyons sont des perfections limitées, hein, forcément. Elles ne sont pas absolument parfaites. Mais nous vivons quand même le bien, c'est une participation de la perfection de Dieu. Les vertus, les qualités. Bon, ce sont des c'est une participation de la pureté de Dieu, de la perfection de Dieu. Les saints, les vertus héroïques des saints, bon, ça nous montre quand même c'est une fenêtre sur la perfection de Dieu. Il faut donc sans cesse purifier notre langage en ce qu'il a d'imagé et d'imparfait, en sachant que l'on ne pourra jamais exprimer pleinement l'infini mystère de Dieu. Fin de citation. Évidemment, on ne pourra jamais nous épuiser le mystère de Dieu, et dans notre langage et dans notre expérience. C'est pour ça que l'éternité, on n'aura jamais épuisé l'éternité pour faire le tour du mystère de Dieu, quoi. L'éternité ne sera pas suffisante. Sachant que l'éternité, ça ne s'arrête jamais. Vous avez déjà réfléchi à ça ? L'éternité. Dieu qui n'a pas de commencement ni de fin. On verra ça. Pas de fin à la rigueur, on peut l'imaginer. Pas de commencement. Plus compliqué quand même. C'est impossible pour nous d'imaginer une réalité qui n'a pas de commencement. Preuve supplémentaire de l'imperfection. Je vous disais tout à l'heure, le prof de l'être parfait, s'il n'a pas de commencement. Parce qu'il est causé par personne. Mais Dieu qui n'a jamais commencé. Ça fout le vertige. Hein. Mais avant, quand on demande à Jésus, hein, quand Jésus dit « Avant que Abraham fût, je suis. » avant qu'Abraham fût, on aura envie d'entendre, bah, j'ai fait ça, ou j'étais ça. Non, Jésus dit, je suis. C'est-à-dire qu'il est de toute éternité, quoi. Du coup, pour lui, Abraham, moi, ou des êtres humains dans 10 milliards d'années, si le monde dure jusque dans 10 milliards d'années, on ne sait pas. Hein. Pour lui, c'est la même chose. Je ne suis pas plus éloigné de Dieu maintenant qu'il y a 2000 ans ou que dans 10 milliards d'années. Parce que chaque moment, chaque instant, lui est coéternel, lui est immédiat. Pour nous, ça, c'est très loin, mais pour lui, c'est dans sa main, quoi. Dans un seul regard. Dans un seul regard, il embrasse toute la réalité. Il est fort, hein. Il est Dieu. Ça va? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent, là? Tout est clair. Je résume. L'homme est capable de Dieu. Tout ce que je viens de vous dire, en fait, ça se résume sous cette phrase-là. L'homme est, comme on dit en latin, un capax dei. Il est capable de Dieu. C'est-à-dire qu'il est, dans sa nature humaine, il est fait pour Dieu. Il y a des profs parmi vous aussi, des instituteurs, des professeurs des écoles, pardon, des professeurs tout court. Non ? Bon. C'est pas grave. Quand on enseigne, quand on dit quelque chose, c'est que vous espérez que l'autre puisse le comprendre. Si tout d'un coup, je vous commence à vous parler en chinois, je ne parle pas chinois.
J'ai compris.
Ah, ma mince. Il n'y en aura qu'une qui comprendra ici. C'est elle. Si je commence à vous parler en coréen, il y a un coréen ici? Vous avez, je ne parle pas coréen. Mais je ne vais pas vous parler coréen parce que je sais très bien que personne ne comprendra. C'est débile. Je ne vais pas vous parler un langage que personne ne comprend. Donc quand on parle, c'est-à-dire qu'on est capable de comprendre normalement. Bah, Dieu nous a rendus capables de lui-même. Je suis capable de Dieu. Ça veut dire il y a en moi, je suis fait, c'est la bonne prise, quoi. Vous allez en Grande-Bretagne, de toute façon, les British, ils font jamais comme les autres. Alors, vous avez déjà vu une prise électrique en Grande-Bretagne? C'est complètement, il y a un truc énorme, il y a trois trucs. Bon. Vous arrivez avec votre truc d'Européen, de Français, et d'Européen, ça marche pas. Bon, ben moi, ma prise, ça match, je suis fait pour Dieu, ça s'imbrique, je suis fait pour ça. J'ai été designé par Dieu et pour Dieu. Et tout mon cœur et mon intelligence sont faits pour lui. C'est pour ça que vous êtes là, mesdames, messieurs. Si vous êtes là, c'est qu'en fait, Dieu a frappé à la porte de votre cœur parce que vous êtes faits pour lui. Et il vous attire comme ça. Et petit à petit, eh ben ça va prendre forme. Vous allez découvrir en fait quelque chose qui est à l'intérieur de vous-même depuis le début, depuis le commencement, depuis que vous avez été créé. Vous êtes fait pour Dieu. Vous êtes fait pour être baptisé. Vous êtes fait pour être confirmé. Vous êtes fait pour recevoir la première communion. Et vous êtes fait pour le ciel. Je suis fait pour ça. Et donc à chaque fois que je prends une direction qui va s'éloigner de ça, eh ben je vais être malheureux comme mes pieds. Et le salaire de ça, ultimement, c'est la mort. Parce que c'est j'allais dire, pas compliqué. Hein. Je suis fait pour Dieu. C'est-à-dire, je suis fait pour la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, hein, dit Jésus dans Saint Jean. Si je ne suis pas ce chemin, je ne pourrai pas entrer dans la vérité et je ne pourrai pas entrer dans la vie. Il n'y a pas de in-between, de bon 50-50 ou de... Non, c'est soit la vie, soit la mort. On le vivra tôt ou tard de façon naturelle. Et c'est-à-dire qu'à un moment, je suis entré dans la vie et à un moment, j'en sortirai de cette vie d'ici-bas, je veux dire. Et bah, surnaturellement, c'est la même chose. Je suis fait pour la vie éternelle. Je ne suis pas fait pour la mort éternelle. Il y a donc une question de vie ou de mort. Hein. Je vous renvoie au livre du Deutéronome. Hein. Voici que je mets devant toi la vie et la mort. Et Dieu dit, choisis la vie. C'est pas, fais ce que tu veux. C'est choisis la vie. Tu peux choisir la mort, hein. Mais bon, bah, par définition, si tu choisis la mort, tu vas perdre la vie, quoi. Tu vas mourir. Donc vraiment, on est fait pour ça, quoi. C'est ça qui est la force du début du catéchisme, c'est de dire, en fait, naturellement, dans le cœur de l'homme, je suis fait pour Dieu. Et donc, ça veut dire que tout ce que je vais entendre sur Dieu, ça va matcher. C'est pas du chine... Pardon, c'est pas du... C'est pas du javanais. D'accord ? C'est pas du... C'est pas du patois basque. Ça me parle, quoi. Ça va vous parler. Ça veut pas dire que tout est simple, mais ce qu'on va entendre là, dans la révélation, dans la Bible, ça va nous parler, parce que je suis fait pour ça, ça va résonner. C'est inné en moi, c'est inscrit en moi. De la même manière que je suis fait pour respirer, je suis fait pour manger, boire, tout ça, c'est inné. Je vais pas... On vous a pas appris à respirer, quoi. Bon, et ben la foi, c'est pareil, c'est quelque chose... Je suis fait pour ça. C'est pour ça que c'est quelque chose de magnifique, en fait, parce que ça va... Toute cette nourriture, cette lumière qu'on reçoit, en fait, elle va trouver sa place, parce que c'est, je suis ordonné à ça. C'est pas un truc, c'est pas un vêtement extérieur qui vous va pas, quoi. La foi, c'est pas un espèce de costume mal taillé. C'est quoi ces trucs, je sais, mal rafistolé. Non, non, c'est taillé sur mesure. La foi, c'est un costume taillé sur mesure, pour moi. Ça va ? Vous avez des questions ? Aucune question ? Bon.
Autour de l'alerte spirituelle et le fait d'être un être religieux, c'est-à-dire que si Platon et les autres avaient reconnu une déité parfaite, Dieu.
Mmh. Ils l'ont fait. Hein.
Ils l'ont fait.
Mmh.
C'était, on parle donc de spiritualité. En quoi ils seraient païens ?
Quand je dis païen, c'est au sens de qui n'a pas rencontré la révélation. Voilà. Mais effectivement, s'il reconnaît un Dieu unique, créateur, véritable, on sort du paganisme. Quand je dis païen, c'est d'origine païenne.
Donc ils ont reconnu un Dieu unique,
oui.
Un être premier,
oui.
Parfait.
Oui, créateur, provident, bienveillant, etc. Ouais.
On pourrait dire qu'ils étaient dans la spiritualité.
Ça veut dire quoi, la spiritualité ?
Ben, je sais pas, j'ai noté alerte spirituelle, on était fait pour une alerte spirituelle et un être religieux. Et Platon et les autres, ils n'étaient pas religieux.
Si, bien sûr que si. Mais quand je dis religieux, ça veut dire qu'il est lié à Dieu. Religieux, c'est l'étymologie, hein, c'est ce qui est relié à Dieu, religieux. Ouais.
Je voudrais juste compléter sa question, si je peux.
Ouais, bien sûr.
Ils avaient, pour moi, avec la définition du polythéisme, une vraie relation spirituelle, mais presque matérielle, dans les dieux de la guerre, les dieux du pain, je n'ai n'importe quoi.
Alors, pas...
Plusieurs selon les...
Pas Aristote, hein. Non, mais pas Aristote, justement, il est sorti du paganisme grec.
Oui, il est sorti, mais il est né dedans.
Oui.
Donc il a dû penser ce que vivaient ses contemporains en disant ce qu'il était, il y a 15 000 dieux. Mais moi, je crois en un seul qui a tout créé.
Voilà.
Ce qui n'était pas le cas chez les Grecs.
Chez les Grecs, non, mais dans la religion grecque, non. Mais chez ces penseurs-là, si, ils ont adhéré à ça, effectivement. Mais ils se sont, oui, ils ont fait un énorme chemin pour se libérer de ce qu'on appelle le paganisme grec, effectivement. Ouais. En partant des perfections, ouais. Oui, ben ça, oui, non, puis en partant des perfections des créatures. C'est ce que dit Romains 1, le premier chapitre de l'Épître aux Romains. Saint Paul, il dit, en fait, le monde créé, la création devant, sous leurs yeux, était un livre ouvert, où ils auraient pu voir l'empreinte de Dieu. L'idée, c'est de dire, hein, que je pars des perfections des créatures, et en voyant toute la bonté de la création, je me dis, ah, mais en fait, il y a un Dieu créateur bon derrière tout ça. Et le chemin, hein, c'est de partir de la bonté des créatures pour arriver à la bonté du Créateur. Je vous renvoie vraiment à Romains 1, vous allez voir, et puis il ne va pas par le dos de la cuillère. Hein. Il dit, ils sont sans excuses. Ils sont sans excuses. Ils avaient sous les yeux la création avec toutes ses bontés, etc. Et bien, ils avaient la capacité de découvrir la présence du Créateur derrière tout ça. C'est pour pour ça que le chemin de l'intelligence, c'est une mission que Dieu confie à l'homme. C'est pas pour ça que Jésus dit, je termine là, au pèlerin d'Emmaüs, là, au cœur sans intelligence, long à croire, etc. Jésus leur dit, vous avez pas utilisé l'intelligence. Au cœur sans intelligence. Réfléchissez avec votre cœur et aimez avec votre tête. Mais quand on aime, qu'est-ce qui se passe, vous tombez amoureux, amoureuse, qu'est-ce que vous faites? Vous posez plein de questions. Ah ouais, tu viens d'où? Raconte-moi ta famille, patati patata. Bon, enfin, ça dure très longtemps. Quand on n'aime pas, on s'en fout, on ne s'intéresse pas à la personne. Plus on aime, plus on a envie de découvrir, de connaître la personne. Et puis plus je connais, plus ça me permet d'aimer. Donc c'est un cercle vertueux. Avec Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil, voilà. C'est important. Voilà, je m'arrête là. Sinon, je vais me faire gronder.